Les rendez-vous de midi, aujourd'hui vous invitez Emmanuel autour de la musique à l'école de musique Vibrato.
On a encore un mois pour s'inscrire à des cours de l'école de musique Vibrato, le conservatoire à rayonnement intercommunal situé à Saint-Jean-de-Mont, avec des classes instrumentales, des chœurs, des pratiques collectives très variées. Pour nous en parler, Ivan Roméo, le directeur, et François Fampou qui est professeur. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour François. Ivan qui est directeur et professeur aussi, non ?
Oui, également.
De la guitare. Voilà. Encore un mois d'inscription, c'est habituel là, de prolonger un petit peu le plaisir jusqu'à la fin du mois d'octobre ?
Alors ça fait partie vraiment du processus d'intégration dans le conservatoire. En général, nous laissons les inscriptions ouvertes jusqu'aux vacances de la Toussaint, en fait, pour les débutants. Pour tous les débutants, notamment les enfants. Pour ce qui est des élèves avancés et des adultes, les inscriptions sont ouvertes toute l'année en fait.
Et ils ont déjà repris, j'imagine.
Voilà, tout a repris. Nous avons repris la semaine du 6 septembre. Hein, et nous sommes déjà en plein travail.
Évidemment, on parle depuis alors l'an passé, alors une nouvelle fois aussi, un petit peu là, cette année d'un vrai impact de la crise sanitaire. Vous avez pas mal souffert, vous, tout le monde,
toutes
les associations, toutes les écoles de musique. Là, on sent que ça revient, ça repart.
Alors, il y a une forte attente, il y a un fort besoin vraiment du partage des pratiques artistiques, ça c'est clair, autant de la part des usagers, des élèves que des enseignants. Hein. Il y avait un manque cruel d'avoir partagé ces moments-là. Donc oui, un fort besoin, une forte envie. Et maintenant, la situation actuelle a fait que beaucoup de familles ont manqué de perspective dans cette rentrée manqué de visibilité en fait sur leurs activités à venir. Et donc on a une rentrée, je dirais, qui part plus en douceur que d'habitude. Mais néanmoins, les inscriptions ont toujours fonctionné jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Et vous êtes au rendez-vous, les professeurs, les ateliers sont au rendez-vous. Vous avez beaucoup, beaucoup de cours. Hein. Un grand nombre de classes instrumentales. Et vous proposez 17 classes.
17 classes, oui.
Des instruments les plus classiques aux plus originaux.
Oui, aux plus originaux, puisqu'on va parler tout à l'heure de la cora.
La cora,
bien sûr,
oui.
Parce qu'on doit être un des rares, voire le seul conservatoire à proposer cet enseignement en tant qu'enseignement et non pas uniquement en tant que pratique. Hein, mais on en parlera dans deux secondes. Et puis des plus classiques aux plus contemporains, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a des ateliers qui sont particulièrement en quête d'élèves, un peu plus que les autres ?
Alors, des classes qui restent ouvertes, notamment les vents, clarinette, hautbois, trombone, trompette, tout ça, sont des classes qui peuvent encore accueillir du public. Quelques places en violoncelle encore et en piano cette année. Ça par contre, c'est assez unique.
Oui, c'est assez inédit. En général, unique, c'est vite rempli. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent.
Bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire du piano, qu'ils en profitent. Il reste quelques places.
Vous avez combien d'enseignants à l'école donc ?
Alors, on a 16 enseignants pour l'instant. Et puis, tout se passe. C'est bien. Hein.
Et les enseignants qui sont habitués, on va le voir, hein, François, ça fait des années qu'ils travaillent avec vous. Vous avez aussi une proposition, alors dès le plus jeune âge, voilà, on a des propositions un petit peu transversales,
oui.
Des propositions pour découvrir le monde sonore.
Oui, en fait, on a 17 classes instrumentales, on en a une 18e. En fait, c'est une proposition qu'on fait aux enfants de 5 et 6 ans, de découvrir en fait l'ensemble des instruments du conservatoire, et donc de ne pas se positionner dès le départ sur un instrument. Donc, notre vocation d'ouverture culturelle fait que nous leur proposons pendant un an de s'initier à tous ces instruments-là. Alors, 5 et 6 ans, c'est très jeune. On a pour cela un parc instrumental complètement adapté à leur âge. Un parc instrumental qui traditionnellement existait pour les jeunes âges, pour les cordes, mais qui pour les vents est tout à fait nouveau. Hein. Ce sont des parcs instrumentaux qui existent depuis à peine 5-6 ans. Tout fait en résine, adapté complètement à leur âge et à leurs possibilités physiques, et qui nous permettent de les initier au trombone, à la trompette, au hautbois, à tous les instruments avant. Et puis évidemment, on a également la percussion et les cordes qui suivent derrière.
Et qui leur plaisent
aussi. Voilà, donc ils ont un an pour peaufiner leur choix, pour ressentir les sensations. Et avec l'ensemble des enseignants, parce qu'il s'agit d'une dizaine d'enseignants qui sont engagés dans cette opération, on a un conseil de classe, il y a une concertation avec les familles, et puis en fin d'année, l'enfant se positionne. Ce qui nous permet de lutter notamment contre le taux d'abandon, hein, qui est une espèce d'épine dans le pied des conservatoires. Nous constatons depuis maintenant 4 ans que nous menons cette expérience que nous résolvons le problème du taux d'abandon.
Grâce à ce conseil final.
Voilà, grâce à ce conseil, ce suivi, cette sensibilisation concertée prise dans le temps. Bon, je dirais que c'est un projet aujourd'hui qui est sur un an. Demain, nous avons un projet bien plus ambitieux qui s'adressera aux enfants dès l'âge de 4 ans et qui pourra perdurer sur 3 années avec un resserrement petit à petit sur l'instrument. instrument final qui sera choisi. Donc c'est tout un projet dont nous reparlerons, hein, parce que nous le lancerons au début du printemps.
On en reparlera alors, avec beaucoup de plaisir. Ouais, les instruments, évidemment, c'est important, les pratiques collectives aussi, oui. Et ça, vous y insistez depuis des années là-dessus.
Ça, c'est le nerf dynamique du conservatoire, bien évidemment. La formation instrumentale qui fait partie de l'enseignement spécialisé n'a qu'un aboutissement, c'est la pratique collective, pour finalement aboutir sur la scène. Donc ça, ce sont vraiment les trois axes fondamentaux de l'établissement. L'enseignement spécialisé, mais également la pratique collective et l'aboutissement sur la scène.
L'aboutissement sur la scène, vous avez déjà des dates qui sont prévues là pour vos élèves?
Alors nous sommes en train de finaliser notre programmation qui va sortir là d'ici quelques jours. Programmation sur l'année et qui proposera à peu près 23 dates dans l'année.
Si je ne me trompe pas, l'une des premières, c'est le 16 octobre.
Oui, voilà, avec Sous le feu des projecteurs, où nous proposons nos élèves les plus avancés, et notamment les élèves solistes. Donc c'est un concert uniquement consacré aux élèves solistes. Parce que finalement, le conservatoire a énormément de concerts et de projets collectifs, et les solistes n'avaient que peu de possibilités de s'exprimer à un certain niveau. Donc voilà, on inaugure l'année avec eux. Et puis ils ont bien sûr les kiosques à musique aussi, hein, possibilité de s'exprimer à tout moment dans l'année. Ils ont 5 moments où nous organisons ces kiosques à musique, qui sont des scènes spontanées,
où les
élèves se présentent d'eux-mêmes, sans les enseignants, devant le public.
Et les habitants sont invités à venir vous écouter,
bien
évidemment,
hein,
c'est avec public. Moi, je découvre aussi que vous avez pas mal d'enseignements de culture musicale, ça c'est important. Alors on ne vient pas effectivement que jouer, on vient apprendre aussi, s'enrichir.
Bien sûr, alors ça c'est toute une série d'outils transversaux entre les cours de formation musicale, de culture musicale, les ateliers d'invention. Dans l'invention, on pense à la création en fait, musicale, l'improvisation, la création musicale. Tous ces outils, ces cours permettent de développer une culture musicale. Et également, nous avons des cours d'histoire et d'analyse qui viennent compléter
Mais qui ne sont pas réservés aux élèves, il me semble.
Non, bien sûr, tout le monde peut venir s'inscrire. Hein. On a des ateliers et des cours qui sont ouverts vraiment à tout le monde. Hein.
Pour s'enrichir sur l'histoire, et j'imagine que François fait partie des enseignants sur l'histoire de la musique, sur la culture.
Alors sur la culture musicale, oui, en général, puisque il enseigne la musique du monde. Sur l'enseignement de la FM, non. Et puis de la culture musicale, non. Mais oui, sur la musique du monde. Oui, tout à fait.
Je vais me tourner vers François, parce qu'effectivement, la musique du monde, ça fait partie aussi de l'enseignement de l'école depuis des années. Avec vous, François Fampou, c'est une partie importante de la programmation des ateliers. Ça fait combien de temps que vous êtes à Saint-Jean-de-Monts maintenant?
Moi, je dirais au bas mot une petite dizaine d'années quand même.
Un petit peu plus.
Une grande dizaine d'années.
Une grande dizaine d'années, oui.
Une grosse dizaine d'années.
Donc, musique du monde, percussion, on va le voir, chora. Ouais. C'est important d'avoir cette variété, cette richesse d'enseignement.
Oui. Ça a été toujours une ligne d'orientation pour notre établissement. C'est la multiculture, l'ouverture la plus large possible des répertoires. Et la musique du monde fait partie de l'école maintenant depuis plus de 10 ans. Oui, tout à fait.
Vous avez fait évoluer votre proposition depuis plus de 10 ans, j'imagine. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus large.
Oui, moi personnellement, oui, avec l'aide de Ivan quand même, qui dirige l'école, parce que il y a certaines choses qu'on a commencé parce que lui l'a souhaité, alors que j'ai vécu le contraire ailleurs, dans la banlieue nantaise, où j'ai commencé vraiment mon métier d'enseignant en musique. Et puis moi, ça m'a fait plaisir qu'on propose comme ça. Nous ne pouvons pas jurer sur le fait que il n'y a pas d'autres écoles de taille municipale ou régionale qui ont commencé à enseigner la kora. Mais par contre, les percussions africaines, presque dans tous les conservatoires. Même le conservatoire de Nantes, ça fait très longtemps qu'ils ont les percussions africaines, ça devient très populaire.
Oui, ça devient. Ça fait combien de temps que c'est populaire maintenant pour vous? Quand vous êtes arrivé en tant que professeur, c'était demandé?
Alors en fait, François a intégré l'établissement en tant que dumiste à l'époque, François, et a initié immédiatement la percussion africaine et la musique du monde, qui était la pratique collective de la percussion africaine en fait. Et donc nous avons ouvert la pratique de la percussion africaine, chose assez rare, avant l'enseignement de la percussion symphonique.
D'accord.
Ce qui est le cas maintenant depuis 2 ans.
Et vos cours aujourd'hui, vous avez de percussion, ça tourne à plein.
Oui, ça tourne à plein, ça fonctionne très bien, on est très contents. Et puis c'est une classe qui a vocation à évoluer énormément et qui a une grande vocation de transversalité. Les percussionnistes sont des instrumentistes qui peuvent travailler avec tous les musiciens du conservatoire. Et c'est notre but, hein, c'est qu'ils puissent s'insérer dans tout type de pratique collective.
Alors on va parler effectivement des instruments que vous enseignez, notamment la cora. Vous êtes venu d'ailleurs avec ce bel instrument. Yvan, vous nous présentez François quand même en quelques mots avant qu'on écoute aussi.
Ben, François, c'est un incontournable de l'équipe du conservatoire. C'est un collègue, c'est un ami, hein, qui nous a justement apporté cette ouverture culturelle de la musique africaine et qui, se spécialisant dans la kora, nous permet d'initier cet enseignement. Bon, je n'ai pas fait une étude sur le territoire national, mais nous devons être très très rares comme conservatoire à proposer la kora. On y croit beaucoup. On a une classe dynamique, hein, une classe essentiellement d'adultes. Hein, qui est très dynamique et qui avance très très bien en termes de qualité et de niveau instrumental.
Alors est-ce que c'est un enseignement compliqué ou pas? Comment justement vous préparez vos élèves? Et puis on va vous écouter aussi après une petite pause musicale. Alors justement on va écouter de la kora parce qu'il y a un musicien aussi, un artiste en France qui a bien proposé un gros spectacle et un album, je pense à Mathieu Chédid évidemment, avec Toumani Diabaté, avec Sidiki Diabaté et Fatoumata Diawara. Mais donc à la kora, c'était Toumani Diabaté dans Mani Toumani. Mathieu Chédid, avec Toumani Diabaté. Vous me disiez, François Fampou, c'est un monstre sacré, Toumani Diabaté.
Oui, absolument. Il fait partie des grands, les deux grands qu'on entend parler, quand on les voit dans un projet, bon, on comprend que c'est quand même des personnes de très haut niveau en tant que musicien. Balaké Sissoko et Toumani Diabaté, bon, pour moi, c'est les meilleurs. Moi, j'ai découvert la kora avec un joueur de kora sénégalais qui n'est pas très connu, et puis qui faisait un peu ce que Alan Stivell en France a fait avec la harpe celtique. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans son celticisme, il a montré, il a fait de la chanson française avec. Bon. Après cela, je me suis dit, il faut que je m'intéresse. Je vais dans un magasin, le premier CD que je prends, que j'achète pour écouter vraiment les grands maîtres de l'Afrique, je tombe sur Toumani Diabaté. Je regarde la photo, le journaliste dit dessus qu'il a 25 ans. Et le journaliste fait des commentaires que c'est la première fois qu'ils ont un musicien africain qui fait de la musique instrumentale. J'écoute tout le CD, il chante nulle part. Il nous offre uniquement de la musique instrumentale. Or, là-dessus, je me suis dit, alors ça, voilà un instrument, je regrette de ne pas être né au Mali.
Oui, parce
on parlait du Mali tout à l'heure.
C'est un instrument né au Mali.
Plutôt, c'est les pays mandingues, en fait.
Ouais.
Bon, après, quand on aura le temps, on pourra en parler. Il y a 6 pays qu'on appelle les pays mandingues, en Afrique de l'Ouest, qui constituent le berceau de la kora. Et puis, le grand chercheur sénégalais qui a fait la seule thèse qui existe à ce moment, mais il y en a qui sont peut-être qui sont en préparation, qu'il a déposée à l'université de Laval au Canada, c'est un chercheur, le sculpteur sénégalais qu'on connaît, structure monumentale. Il est très spécialisé là-dedans, membre de l'Académie des Arts à Paris. Et il a déposé une thèse, et justement, son territoire de recherche, c'était ces 6 pays-là, ce berceau-là.
Donc, si je vous comprends bien, vous avez découvert, vous, assez sur le tard, hein, la kora.
J'ai découvert sur le tard, mais je me suis laissé bien embarquer dedans.
Et donc, vous avez apporté des koras à Saint-Jean-de-Mont, à Vibrato.
Oui.
Vous l'enseignez aujourd'hui. Alors, on est dans la transmission orale, hein, comme bon, la plupart des instruments que vous enseignez, d'ailleurs, les percussions. J'imagine que quand on suit un atelier avec François Fampou, on rentre dans un univers particulier, on ne fait pas que jouer de la musique.
Voilà, justement, c'est là que vient... on en a parlé tout à l'heure, bon... Moi, je suis attaché. Je suis de formation comme mes collègues, mais je suis attaché à la possibilité, la capacité de découvrir une partition, de se l'approprier. Parce que la transmission orale, bon, j'irai pas le dire, c'est à part, c'est autre chose. Je suis devant un public européen.
Enseignant, oui.
Je peux dire que je coupe la poire en deux. Je me dis, il faut avoir de la mémoire. Que font les grands solistes dans les orchestres symphoniques? Ils arrivent, pas les mains dans les poches, mais ils arrivent instrument en main et rien d'autre. Donc, la mémoire, ça compte. Mais par contre, aussi, quand on est en apprentissage, de savoir lire et écrire, c'est important. Donc, je coupe la poire en deux.
Une partie aussi.
Tous mes élèves apprennent par la lecture.
Oui.
Et là, on tombe maintenant dans la kora contemporaine.
Alors voilà. C'est important, on n'a pas énormément de temps pour en parler, mais juste effectivement vous avez un instrument qui est particulier, qui est un peu différent de l'instrument traditionnel qu'on va voir.
La différence avec l'instrument traditionnel, c'est que il y a toujours 21 cordes, mais la différence, c'est que les cordes sont tenues par des clés.
Comme une guitare.
Oui.
C'est ça.
Comme une guitare. Oui. Et en plus, ça a évolué. Alors moi, je dirais tout de suite, l'arrivée des clés sur la kora, c'est l'œuvre des moines bénédictins qui sont partis de Solesmes il y a déjà un demi-siècle. Ils sont arrivés au Sénégal. Leur projet, c'était de créer une nouvelle maison. Bon, chez eux, tranquillement, ils écoutent le son de la kora dans le quartier. Et puis, il y a des semaines qui passent. Et un jour, ils vont chercher pour voir d'où vient ce son. Ils trouvent des griots qui jouent la kora. et demandent si ils veulent bien leur apprendre. Ben, ils sont d'accord. Les moines européens, partis de Solem, ils apprennent à jouer de la kora et de fil en aiguille. Ils mettent 6 ans à se débrouiller avec les lanières de cuir. Ils en sont un tout petit peu, mais même beaucoup, gênés. Solution finale, il y a un frère bénédictin qui joue de la kora pour accompagner les offices. Il y a une deuxième kora derrière, il y a un frère qui est monopolisé pour accorder une deuxième kora lorsque celle-ci sera désaccordée. Bon, ils ont travaillé comme ça, puis aujourd'hui, ils arrivent avec ce...
avec l'instrument. Il nous reste 2 minutes 30. Est-ce qu'on peut garder ce petit temps pour vous écouter? François, vous êtes venu avec votre kora, juste le temps que vous prépariez. Donc, Ivan, voilà, on peut s'inscrire encore au cours de kora ou c'est
oui,
complet?
Oui, tout à fait. Il y a encore de la place.
C'est magnifique. Alors, évidemment, on n'a pas l'image, mais c'est un instrument qui est très visuel et qui est très beau aussi. On va vous écouter, François Fampou, jouer de la kora. Alors j'imagine le plaisir d'avoir plusieurs élèves quand vous passez près de la classe.
Et vous avez remarqué aussi que François a hérité des frères Griot, en fait, ce talent de la saga, de l'histoire. Donc il s'est allié aussi pendant ses cours la compétence instrumentale avec le plaisir des histoires.
Et c'est un poète et un conteur. Je vous remercie infiniment. Il est 13h, on pourrait faire beaucoup plus, hein, évidemment, avec vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et donc, on peut s'inscrire à Vibrato jusqu'à la fin du mois. C'est par Internet aujourd'hui ou on peut aussi appeler l'école, tout simplement?
On peut appeler l'école, mais ça se fait très, très bien aussi sur Internet.
Aux différents ateliers, aux cours instrumentaux, aux cours de François Fampou et aux vôtres peut-être aussi. Ivan Roméo, merci, messieurs.
Merci à vous.
Et à très bientôt sur NavFM.
Merci.
Au revoir.
Merci. L'émission podcast, vous le savez, navfm.fr et l'appli, ça arrive dans quelques secondes. Le programme pour lundi? Mardi alors, peut-être.
Attendez, faut que je me souvienne. Là, c'est terrible que je l'ai
pas annoncé.
J'ai un grand trou.
J'ai fait exprès, vous inquiétez
pas. Vous avez pas regardé ce que j'avais dit?
Non, mais vous inquiétez pas, on va l'annoncer tout au long du week-end.
Ah, yes. Je sais. Lundi, on aura Mathieu Perrochon à parler de cuisine. C'est la semaine du goût qui arrive. Thierry David, vous avez cru me piéger.
Voilà.
Eh bien, Cooking University propose un rendez-vous autour de la Vendée, évidemment. Terre de qualité. On va parler de cuisine avec lui.
Très bien, lundi à 12h35. Merci. Bon week-end avec un peu d'avance. La musique, le retour, c'est Midja et Flo de la Vega. Et puis à tout à l'heure, 16h sur 9 pour la bonne nouvelle.